Bien le bonjour. Pendant que vous avez écouté José chanter, vous avez vu défiler des photos de notre travail de brousse. Alors, en quelques minutes, je ne pourrai pas vous raconter 17 ans de mission, soit presque deux décennies. Je ne pourrai pas vous transporter dans des situations extrêmes où même les scénarios de films ne pourraient pas vous faire comprendre tout ce que cela veut dire. Mais avant de commencer, j'ai une parole peut-être pour quelqu'un. Alors je vais vous lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans Galates. Et voici ce qui est écrit. Car ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une nouvelle créature. Et c'est un petit peu ce que je veux vous dire ce matin. C'est que Dieu est capable, une fois que vous l'avez rencontré, de littéralement, modifier le cours de votre existence et vous transporter, vous aider à marcher vers une autre destinée. C'est quoi le destin ? C'est pas philosophique le destin. Le destin, vous pouvez ou le subir ou donner un gouvernail à votre vie. Un gouvernail, c'est un ustensile qui vous permet de diriger des forces qui vous entourent. Dans le maritime, vous pouvez utiliser le vent et la poussée d'Archimède qui dit que tout corps plongé dans un liquide subit une poussée égale à son poids. Donc vous flottez. Et donc le liquide, l'eau, vous donne une puissance, une force. Et les vents vous donnent aussi une autre force. Et ces deux combinaisons vous donnent une vitesse. Si vous n'avez pas de gouvernail, ces deux puissances vous emmènent vers le chaos et la mort. Et donc dans votre vie, si vous avez choisi consciemment, intelligemment et en bonté d'avoir rencontré celui qui est venu jusqu'à vous, en traversant le ciel et l'éternité, c'est le Dieu vivant. Dieu nous a donné son prénom. Il s'appelle Emmanuel. Et ça veut dire Dieu avec nous. Et donc si dans votre existence propre, vous avez accepté de greffer à vos puissances, à vos décisions, un gouverneur de destinée, alors vous pouvez concevoir que le destin, c'est des choix que vous ferez et pas que vous subirez. C'est toute la différence. Donc le christianisme n'est pas une religion parmi tant d'autres. Elle est l'acceptation d'un Dieu vivant, le Dieu vivant, dans sa propre vie. Et à partir de là, vous avez un destin. C'est-à-dire que vous rentrez dans ce que Dieu veut partager avec vous. Et c'est toute la différence entre une personne qui est devenue une nouvelle créature. Vous n'aurez pas deux têtes. Dieu ne va pas vous greffer un cerveau nouveau ou changer des entrailles. Il va utiliser ce que vous êtes. Mais il va avoir une rencontre de puissance, comme je viens de le dire en maritime, c'est-à-dire votre vie qui est de courte durée et l'éternité de Dieu dans laquelle il veut vous inviter. Dieu vous bénisse avec cette réflexion. Hein? Donc, je m'appelle Éric-Adrien Lagache. Je suis citoyen français, j'ai 55 ans, avec mon épouse Isabelle. Nous sommes devenus des grands-parents. José aussi est grand-père. Donc, il n'y a pas que des papis du roc dans la vie, il y a aussi des papis missionnaires. Et nous sommes cette génération. Nous sommes des missionnaires du 21e siècle. Nous ne sortons pas d'un placard ni d'un fantasme. Nous sommes des gens actifs et acteurs dans notre monde. Nous sommes dans un christianisme militant. Je vis à Madagascar depuis bientôt 2 décennies, donc je suis un étranger. Nous sommes tous des étrangers ici-bas, quelque part. Tous. Même le Christ qui est venu sur terre a été un étranger. Aussitôt que Marie a pu accoucher dans un cul de basse fosse à brebis, là où il y avait des crottes de moutons, c'est toute la place qu'il avait. Pas terrible hein, pour commencer une histoire avec les hommes. Eh bien, ils ont dû se sauver comme des effrayants naufragés d'une société de persécution, de mort. L'Empire romain régnait sur la Palestine et un despote qui était en place par pouvoir, c'est l'histoire de notre monde, hein. Hérode n'avait qu'une ambition, c'est de rester le tyran qu'il voulait. Donc tout ce qu'il voulait était concurrence, fallait le tuer. Donc tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de massacrer des enfants. Donc Jésus, bébé, est un réfugié, il est parti en Égypte. Et à un moment donné, il est revenu. C'était un apatride. Donc vous voyez, dans notre monde, ce n'est pas une situation de victimologie. Alors je vois par contre, ce matin, dans votre illustre auditoire, des gens qui ne sont certainement pas des caucasiens. Mais nous sommes tous quelque part de cette terre, d'un continent. Donc ce n'est pas le fait de ne pas être d'ici qui nous rend victimes ou qui devrait nous donner des droits. Avant de dire que nous avons des droits, il faudrait déjà regarder quel est notre devoir. C'est-à-dire, dans devoir, il y a aussi une syllabe pouvoir. Et donc, vous avez déjà des pouvoirs sur la plus grande richesse que vous avez entre vos mains, c'est votre vie. Donc, votre vie vous appartient. Qu'est-ce que vous allez en faire, ou qu'est-ce que vous en faites, ou qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, le Christ n'est pas une consigne à mémoire de souffrance. Le Christ, c'est d'abord une personne qui est venue dans votre vie, ici. Et il a vécu un temps où parfois les gens sont dans une tromperie intellectuelle et émotionnelle, pensant que s'ils avaient vécu au temps du Christ, leur vie aurait été meilleure. Et bien là, je tiens à vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil et il va sortir dans l'omoplate. Parce que la vie du Christ n'a été qu'une ambiance de mort, d'angoisse, de souffrance, de manquement, d'injustice, de rejet, de tentative de meurtre, d'assassinat, et même quand il y avait des ressuscités, comme Lazare, eh bien, fallait quand même le faire mourir. Alors, ça m'étonnerait qu'au milieu de nous, il y aurait des gens, et moi le premier, qui auraient peut-être eu la capacité de vivre 10 minutes dans le ministère d'un homme qui a été au service d'un Dieu tout-puissant, son Père, puisqu'il est venu sur terre, il s'est fait serviteur dans le sens « je suis au service » de quelque chose, peut-être rejeté pour lequel les gens vers lesquels je vais aller, mais aussi délégué de dire « Tu m'as envoyé, Père, je serai ton serviteur et j'accomplirai une mission jusqu'au bout. Je ne démissionnerai pas, je n'abandonnerai pas, vous avez entendu Jean, je persévérerai et j'irai vers le bout de la délégation de pouvoir que tu m'as donnée. » Voilà. Donc si votre vie ce matin n'est que plainte, j'en ai marre, je suis pas entendu, je suis pas compris, sachez que le premier responsable, c'est vous. Car le Seigneur Jésus est venu pour vous sauver, pas vous servir. Et si vous n'avez pas appris à déjà donner votre vie, comme je viens de le dire, pour être une créature nouvelle, en mouvement, pas en magie miraculeuse, mais en mouvement, alors votre vie n'a aucun destin. Et le destin, c'est le choix qu'on prévoit pour arriver à un objectif. C'est pas quand vous arrivez dans les récifs avec votre navire que vous dites « Oh, ben, j'aurais dû prendre le courant porteur vers le large. C'est fini, c'est trop tard, c'est foutu, vous mettez tout ce que vous voulez. » Et donc votre vie a une grande et importante valeur pour vous, pour vos enfants. Car à travers vos petits-enfants, vous voyez aussi votre propre vie. Donc si vous voulez réussir votre vie, il ne suffit pas de dire à vos enfants « Mais tu ne fais pas ce que je te demande. Il devrait être, tu devrais. » Ou « Je pense que. » Il faut déjà que vous, vous soyez dans les mêmes termes que vous voulez voir dans les autres. Un jour, une période, nous avons entendu la voix de Dieu qui nous a demandé d'être serviteurs à Madagascar. C'est pas venu comme ça parce qu'on s'ennuie dans notre église, c'est parce que nous avions eu déjà 10 ans de service pastoral. Et vous, pour ceux qui me connaissent, ça fait la troisième fois que je viens.
Donc ça fait une moyenne de 6 ans. Et donc, en 1999, donc au XXe siècle, nous sommes partis à Madagascar en tant que missionnaires. Aujourd'hui, 17 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a vécu 3 périodes. On a vécu une période de missionnaire, après on a vécu une période d'organisateur, on a organisé notre travail, entre guillemets, on a voulu que les choses prennent un sens, on les a organisées, et aujourd'hui nous sommes dans une situation d'agence de mission. Vous avez entendu José qui chante, José est un collaborateur, on collabore ensemble dans un certain domaine, et les gens que vous voyez dans des fonctions de médecin, de cuisinier, d'opticien, de sage-femme, de chauffeur, de distributeur de nourriture, tout ça c'est des gens qui sont dans un engagement. Un engagement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une vocation professionnalisée. Leur vocation est dans un professionnalisme avec et pour Dieu. Donc on n'est pas dans un manège enchanté, on est dans les réalités du monde, où depuis la naissance, on a des drames, où des mères ont des femmes, des jeunes filles. Tant qu'une petite fille va à l'école, elle est vierge. Une fois qu'elle n'y sera plus, elle a tous les risques de devenir enceinte, volontairement ou majoritairement par non-consentement. Donc parfois, on a des enfants qui accouchent d'enfants. Et puis ces enfants, nés accouchant d'enfants, étant absolument mais sans ressources, le bébé sera noyé ou jeté aux égouts ou dans un bac à ordures pour être brûlé. Voilà. Donc avant même de commencer, on vit dans des drames. Et les gens vivent comme ça. Donc mon épouse, Isabelle, s'occupe d'un club de jeunes femmes qui ont moins d'un siècle. Elles ont en moyenne environ 20 à 30 ans de moins d'un siècle. Et ces femmes, quand on leur prêche l'évangile de la manière dont je vous parle ce matin, savent très bien quel type de vie elles ont subi. Elles ont parfois subi l'inceste, le viol, l'abandon, le drame, la trahison, le vol, etc. Est-ce que l'esclavage existe toujours? Oui. Vous voyez, je n'attends pas que vous me répondiez. Oui. Nous sommes dans un pays où l'esclavage, il n'est pas avec le fouet ou des images caricaturales, mais il y a toujours un type d'esclavage. Alors, je ne tiens pas à vous dépeindre le misérabilisme de l'Afrique. Je vais vous montrer et je vous démontrer qu'on est dans des luttes. Nous devons lutter, ici ou ailleurs. Nous devons lutter, car votre vie est en concurrence. Nous sommes entourés de choses absolument affreuses. Il ne suffit pas de se plaindre, mais il faut s'organiser. Donc en tant que missionnaire, ce matin, vu que nous sommes accueillis, nous tenons à vous témoigner que le christianisme militant existe toujours. Et que si vous n'êtes pas, vous, dans un christianisme militant, et si vous ne savez pas répandre des larmes d'engagement aujourd'hui, demain, en voyant vos enfants ou en subissant la vie de vos petits-enfants, vous aurez des larmes un peu plus rouges. Et vous n'y pouvez plus rien. Donc, le Christ est venu pour vous avertir d'une grande vérité. C'est que votre vie est une carte qui va très très vite en consommation. Si je prends une boule là, je la fais rouler, vous allez avoir un effet tout à fait mécanique de fixer la boule et vous n'allez pas voir la distance qu'elle va parcourir et vous allez regarder jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et bien votre vie souvent elle est comme ça, vous ne regardez que ce que vous êtes. Vous roulez, vous roulez, vous roulez, et à un moment donné, vous ne vous apercevez même pas, comme le chant de cette femme, que votre vie s'arrête à un âge défini. Que vous ne maîtrisez pas. Moi-même non plus. Donc l'intérêt, ce n'est pas de regarder et de fixer la boule, votre vie qui roule, mais de regarder la distance qui est parcourue et ce qui a été fait. Donc il y a des gens qui ont une vie, ils ont décidé de la donner pour que leur existence ressemble à une nouvelle créature. Et nous sommes en concurrence. Le monde est une concurrence. L'argent facile est une concurrence. Et tout ce qui va avec. Nous devons lutter contre la corruption à Madagascar. Nous devons lutter contre les faux médicaments. Nous devons lutter contre un mensonge, contre l'absurdité de la pauvreté, où on n'a même pas de réponse à ce qu'on subit. Et nous devons lutter contre ça. Vous allez dire, mais ici aussi, vous devez lutter. Si vous n'engagez pas votre vie sur un christianisme vivant, vous serez inexorablement battu. Le match est déjà vaincu d'avance. Donc, le Seigneur Jésus est venu afin que vous le rencontriez ici ou ailleurs, et qu'à travers votre démarche sincère, adulte, mûre et choisie, vous changiez la face du monde. Donc en tant que missionnaire, les gens que Dieu nous envoie, on s'en occupe. On s'en occupe à les nourrir, on s'en occupe à leur donner un programme nutritionnel ou alimentaire, et puis des soins, et à entendre la parole de Dieu, à être protégé dans une petite école qu'on organise, à être consciente, après avoir été enseignée, à lutter contre toutes les sortes de violences ménagères, physiques, religieuses, traditionnelles, financières, sexuelles. Voilà, ça c'est des luttes, c'est des engagements. Alors ici, dans votre magnifique, merveilleux et glorieux pays de France, vous avez des outils exceptionnels, formidables, incommensurable moyen de modifier votre existence afin que celle-ci soit utilisable par Dieu pour modifier celles qui sont autour de vous que Dieu vous confie. Si vous voulez rester sur la touche, libre à vous. Si vous voulez être un outil vivant entre les mains, c'est à vous de le prendre, votre destin. Mais vous ne pouvez pas dire que les flots sont contre vous si vous n'utilisez pas les bons outils. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de vent dans votre vie si vous n'avez pas de gouvernail. Vous ne pouvez pas dire tout cela si vous n'avez pas pris le choix de choisir une vraie vie en Christ avec un gouvernail de destin. Donc nous nous organisons à Madagascar pour que les gens qui nous sont envoyés, vous voyez, on ne fait pas trop et on ne fait pas ce qu'on appellerait de l'évangélisation. On réceptionne quelque part les gens que Dieu nous envoie. Alors, nous sommes implantés au nord de Tananarive, la capitale, à 1400 mètres d'altitude, où il fait parfois très froid, en dessous de 10 degrés, l'hiver, où le pays de Madagascar, qui représente la France et le Benelux en surface, est disponible avec environ 4 routes majeures. Vous imaginez les distances immenses où vous ne pouvez pas rouler, vous ne pouvez pas vous déplacer, où il y a une population de 20 millions d'habitants, où il y a plusieurs ethnies, dialectes, il y a une langue officielle, soit, mais aussi des us, coutumes, Et nous travaillons aussi dans un secteur où nous avons été conduits, il y a 11 ans, à commencer une œuvre pionnière à éloigner de 1000 km de notre lieu de résidence. Ouais, bah, vous traversez la France pour aller à votre lieu de mission, et où il n'y a pas de route. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous ennuyez à Tana, il n'y a pas de baby-foot ou de billard? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez été habité, invité, saisi à une dimension de vie où pendant le court temps que vous avez, vous l'avez donné à Dieu pour qu'il se passe des choses. Moi, je ne peux pas travailler 50 ans, Bruce. J'ai déjà 55 ans. Mais j'inaugure des choses. Et la mission, elle est intergénérationnelle. Le christianisme est intergénérationnel. Dieu peut vous donner des perceptions de travail de quelques jours, d'un événement maintenant, de quelques jours, quelques semaines, mois, années, décennies. Mais ouais, Dieu, dans sa puissance, peut vous donner, parce qu'il a compris que vous avez compris, qu'il l'a entendu, que vous avez destiné votre vie à un chaînon dans la chaîne, et ce chaînon-là va permettre d'accrocher le passé et de préparer le futur pour entrer dans des dimensions où l'humanité peut être modifiée par le message vivant du christianisme. Donc vous pouvez être un outil intergénérationnel. Mais il ne suffit pas de laisser passer le temps en disant « bah oui, je ne peux pas, je vais y arriver peut-être un jour ». Puis à un moment donné, vous regardez votre passé, vous dites « oh, bah si j'aurais su, si j'avais su ». Mais vous, tu le sais. Nous, en Brousse, je me suis assis sur un bout de terre et j'ai dit « il n'y a que des pauvres, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment faire, c'est maintenant ». Et je ne vais pas attendre 10 ans pour dire « on aurait dû le faire ». Donc en n'ayant rien, même moins que rien, on a commencé, et c'est ce que je vous disais, deuxième étape, nous nous sommes organisés, 3 bricoles, 2 chaises, qu'importe, on s'organise et on valorise les choses. Alors notre matériel, c'est quoi notre matériel de mission? Ben, j'ai un camion qui a 50 ans, voilà, de Bruce, avec tout un confort de 50 ans. On n'a pas besoin forcément de plus, mais on aurait plus, on ferait plus. En attendant, on le fait, on fait avec les outils que nous avons. Un pick-up de 300 000 km. Voilà, une vie de 50 ans. On pourrait peut-être être ailleurs. Moi, j'aimerais être ailleurs. Franchement, j'aimerais être dans une autre vie. Parfois, j'aimerais... je ne sais pas trop, mais... peut-être, si, être dans le business. Faire du fric. J'aimerais. Je sais le faire, mais Dieu m'en interdit. Il me dit, non, l'énergie que tu as, je veux l'utiliser pour un... Alors il me rend maladroit dans les affaires. C'est fou ça, hein? Comme on peut être... Donc je suis devenu maladroit dans les affaires, proprement dit. Je pourrais forcer la chose et retourner dedans. Mais le Seigneur me dit, non, ton énergie est pour les choses éternelles. Donc vous voyez, on peut choisir. On peut toujours choisir autre chose, mais on a choisi une autre vie. Donc, nous vivons avec Isabelle, nos enfants sont devenus majeurs, ils sont rentrés, ils sont devenus parents à leur tour, et nous voici donc dans une troisième génération de christianisme. Et Dieu nous confie des gens parce qu'on est devenus des valeurs mûres, sûres, viable, expérimenté, ça ne veut pas dire qu'on est sans péché. On ne va pas se plonger dans des péchés vulgaires à chaque fois. On fait des tâches dans notre vie. Des fois, on a des hésitations, on a des égarements, on a des faiblesses. Notre corps nous rappelle qu'on a des limites. Et puis, nos fatigues mentales, émotionnelles, spirituel, on n'est pas sans reproche, on n'est pas baillard, des chevaliers sans peur et sans reproche, nous sommes réels. Et c'est ça le christianisme aussi, c'est de savoir comprendre que si nous sommes devenus une nouvelle créature, il y a aussi quelque part une ancienne qui est là. Et on reste dans une dimension de grâce, de renouvellement. On attend le miracle, on persévère, on croit, on se renouvelle, on hésite, on doute, on n'a pas, on fait, puis on continue. Et dans la continuité avec Dieu, il y a une ombre de quelqu'un qui est plus grand et plus fort que nous, qui est supérieur, qui prend plaisir à nous voir dans nos faiblesses réussir des choses improbables. Et Dieu se dit, ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire autre chose. Mais ils ont choisi une carrière, un engagement et une dimension de vie où je peux leur confier des gens. Et je peux leur confier des enfants, et je peux leur confier des vieilles personnes. Qui peut investir sur la vieille personne? Ça coûte de l'argent, des vieilles personnes. C'est malade. On ne va pas faire une croissance avec des vieilles personnes dans une église. Eh bien, trompez-vous. Détrompez-vous. Les vieilles personnes sont des individus, comme des enfants sont des individus, comme les veufs ou les veuves sont des individus, comme les femmes ou hommes abandonnés, comme les orphelins, nous sommes tous des individus. Et il n'y a pas une quantification à faire. Par contre, les individus ne doivent pas rester dans leur identité de victime. Et c'est pourquoi il faut prêcher l'évangile de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi vous entendez ça ce matin, pour vous lever dans votre racine, dans votre tronc, dans votre nature qui a peut-être été sectionnée. Soit ! Mais Dieu est tout puissant pour greffer quelque chose. Tout chirurgien rêve de la greffe d'organes qui redonne la vie à un corps usé par quelque chose. Mais c'est le Graal, quelque part, du chirurgien. Mais en tant que chrétien, imaginez-vous Dieu qui est le chirurgien des chirurgiens, qui sait greffer une vie nouvelle et qui veut le faire dans votre vie. Et qui, il ne peut pas vous mettre tout le temps en anesthésie. Il veut vous éveiller, vous réveiller à une vie nouvelle par sa greffe, lui, dans votre vie. Troisième point, nous sommes donc devenus une agence missionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est important que les nationaux rentrent en zone de mission. Comment et quoi est la mission ? Vous voyez, pour moi, la cuisinière de Brousse, c'est une missionnaire extrêmement importante. Car quand vous avez été en Brousse et que vous avez failli mourir, non, je ne dis pas qu'on a eu la diarrhée. Non, la diarrhée, c'est le gâteau, ça. Non, je dis, vous êtes en train de mourir. Vous êtes chez vous, sous perfusion, et vous savez, vos pieds commencent à s'ouvrir, et vous savez que vous pouvez partir à n'importe quel moment. Je ne dis pas vos pieds s'ouvrent, il n'y avait pas une fermeture éclair, mais vous savez que votre corps va sans pas. Votre corps n'est qu'une enveloppe, et vous savez que vous basculez dans un monde ou dans un autre. Vous le savez. Parce que l'eau que vous avez bu n'a pas été traitée. Un seul bidon sur l'équipe, et vous savez que 10 jours après, vous êtes en train de mourir. Et vous mettez 3 mois pour récupérer votre santé et 6 mois pour revenir. Donc c'est une missionnaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a une Bible greffée sous le bras ou sur la main. Ça serait ça un missionnaire. Non, c'est quelqu'un qui organise tous les éléments qui font que l'œuvre de Dieu avance. Alors peut-être que vous dites, mais c'est quoi être missionnaire ? Être missionnaire, ce n'est pas partir de l'autre côté du monde, parce que vous êtes de l'autre côté du monde pour nous. Être au service. Alors, missionnaire, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Vous êtes envoyé, vous êtes apôtre, vous êtes rentré dans un ministère apostolique. Donc, nous sommes dans un ministère apostolique. Donc, le but, c'est pas un titre. Le but, c'est de rentrer dans une fonction, un service. Là, dans votre communauté, là, pendant que je vous parle, je n'essaye pas de vous culpabiliser, ni de sortir quelque chose qui serait faux de vous, mais honnêtement. Sans déconner, depuis le temps que Dieu vous parle, vous ne croyez pas que vous auriez pu faire quelque chose ? Personne ne m'a parlé ce matin, je vous dis simplement les choses. Et là, pendant que je vous parle, vous ne percevez pas qu'il y a quelque chose qui doit s'ouvrir? Et après notre départ, peut-être réfléchissez au service que vous pouvez donner à Dieu. Nous savons que si nous ne faisons pas ce qui se présente comme obligation dans notre travail, personne ne fera pour nous. Personne ne fera pour moi. Donc, tu te débrouilles. Tu le fais. Tu t'organises. Et tu n'attends pas constamment de dire « il n'y a pas, donc on fera quand il y aura ». Non, non, non. Nous sommes vaccinés à l'impossible. C'est notre sang. Tout n'est pas possible. Voyez-vous, on vit par la foi. C'est le troisième point dans lequel en œuvre missionnaire. Et nous ne pouvons pas vivre si derrière, il n'y a pas des communautés et des gens qui nous soutiennent. Alors, on n'est pas là pour faire une mendicité évangélique avec vous ce matin, mais on vous dit une clairvoyance. Si nous ne sommes pas soutenus, nous ne pouvons pas travailler. Et si vous n'avez pas une vie soutenue, vous ne pouvez pas rentrer dans un travail. Et si vous ne rentrez pas dans un travail, vous rentrez dans des systèmes d'assistanat permanent, de justification. Alors que Dieu vous a appelé. Alors vous pouvez chanter des chants « Je règne, Alléluia, Dieu est tout puissant ». Mais si dans votre vie, il n'y a pas une corrélation juste, vous êtes faux. Et donc en mission, le faux ne tient pas. Ça ne marche pas. Vous voyez, c'est comme les magnettes sur le réfrigérateur. Il y a une voiture, c'est une Bugatti. Une belle magnette, je la prends, je la mets sur la route. Mais ça ne marche pas. Mince alors. Ça n'a que dans mon rêve. Donc vous pouvez nous mettre en magnette sur votre réfrigérateur mental. Vous pouvez mettre Dieu en magnette dans votre âme. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas une magnette, ce n'est pas une copie ou des états d'esprit de photos, ce qui compte dans votre vie, c'est la personne vivante du Dieu vivant. C'est ça qui compte. Et à partir de là, il y a un mécanisme qui se fait, un mécanisme de greffe, de vie. Et donc, si nous sommes de l'autre côté du monde, c'est parce que des gens nous aiment. Et nous vous remercions, sincèrement. Voyez-vous, c'est que notre histoire, c'est une question de fidélité aussi. Vous avez entendu, 17 ans de mission pratiquement. Et nous sommes passés dans des stades véritablement creux où on aurait dû humainement, allez, chut, jeter le contrat, terminé, c'est fini. Il y a mieux à faire. Pour qui, pourquoi on est là, il y a mieux à faire. Non, parce qu'on habitait d'autres choses. Donc dans votre vie chrétienne, si vous êtes habité par un Christ vivant, vous allez apprendre à grandir et à persévérer l'impossible. L'impossible, c'est juste une syllabe avant, en trop, avant le, j'ai pas entendu, voilà, avant le possible, juste une. Et parfois, l'impossible est toujours conjugué, humainement, au lieu de dire déjà la question à Dieu, Seigneur, c'est possible? Seigneur, est-ce que c'est possible? Oh, tu vois, c'est impossible, impossible de gagner des gens, impossible. On peut être dans l'impossibilité de dire, mais est-ce qu'on pourrait demander, est-ce que c'est improbable, est-ce que ça serait fou, grossier, de dire à Dieu, mais Seigneur, nous voulons te réclamer dans notre salle de prière, première pièce en arrivant dans votre église, dans notre salle de prière, nous voulons te réclamer des conversions. Pas des adhésions. Pas des sympathies, des visiteurs, des gens qui, oh, c'était bien, j'étais bien avec. Non, des conversions. Seigneur, nous te réclamons, là, et on est là pour ça, on te réclame des conversions, des familles qui se convertissent, des pourris qui se convertissent, des gabelous qui se convertissent, des qui se convertissent. On veut des trafiquants et on veut prier pour notre ville, là, que les choses reculent, que les trafics reculent, que les choses, que les inconvertis disent, c'est comme un miracle, il y a moins de trafic dans notre ville. Mais si l'Église, là, n'est pas en combat, en lutte et puis à dire, à afficher la chose, vous n'aurez rien. Donc vous voyez, nous on vit dans l'impossible permanent. On n'a pas de bouffe pour les vieilles personnes, on n'a pas de médoc pour les malades, on n'a pas toujours tout, on a beaucoup plus de factures non payées légalement que de moyens. Mais on continue, et puis à un moment donné, hop, 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 le miracle. Et là, vous vivez vraiment autre chose avec Dieu. Vous êtes contaminé au possible de Dieu. Moi, j'aime être vacciné comme ça. Donc, on a été pourri par les maladies de Bruce, dans notre corps, dans notre personnalité, dans notre limitation parfois. Mais quelque part, on continue à vivre dans l'impossible de Dieu. Bien, j'espère que ça vous a encouragé. Et nous voulons finir par la prière. Combien d'entre vous veulent devenir une nouvelle création, une nouvelle créature? Combien d'entre vous veulent rentrer dans une vie où il y a un gouvernail qui est Christ? Et ça vous donne un destin spirituel. Combien d'entre vous ce matin ont entendu que c'était possible de changer la face de leur vie, leurs décisions personnelles? Combien d'entre vous ont entendu que ce n'est pas une vie d'assistance à justifier avec Dieu qui compte, mais c'est une vie de militantisme chrétien, vivant de maintenant? Combien d'entre vous ont entendu que leur réunion de prière, c'était fait pour gagner des âmes, avoir une conjugaison, un vocabulaire de gagneur d'âmes, de dire « Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Peut-être que vous avez plus de questions au début que de réponses, mais au moins c'est de poser des questions à Dieu. « Qu'est-ce que tu me demandes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on ne doit plus dire ?» Combien d'entre vous l'ont entendu? Je vous invite, selon la réponse que vous voulez donner à Dieu, de vous lever, c'est personnel, c'est entre vous et Dieu. Et là, nous allons prier ensemble, selon le sujet qui est dans votre cœur. Je ne vous appelle pas à tous vous lever, si vous ne voulez pas vous lever, vous restez assis. Je veux simplement passer un moment avec ceux qui veulent, qui ont entendu quelque chose de Dieu. Et nous prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es la vie et tu es la résurrection. Et dans notre vie et dans nos vies ce matin, tous les impossibles, Seigneur, apprends-nous à prendre ces deux premières lettres qui forment une syllabe juste avant. Que le 1 possible. Ce matin, on veut le prendre, mais spirituellement, comme ça. Et on veut le ramener vers le bas. Et on veut laisser simplement luire, briller, éclairer le mot possible de Dieu dans nos vies. Seigneur, je te prie pour que tous les impossibles, tu nous apprennes, tu nous mettes en mouvement pour que ça devienne possible. Je te prie, Seigneur, humblement, et je te demande ta grâce pour tous nos impossibles dans nos vies, humains, spirituels, morales, physiques, psychologiques, tous nos impossibles de santé qui nous imposent, là, c'est impossible d'aller plus loin, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus. Seigneur Jésus, ce matin, je prends ce « i » et je prends ce M et je l'enlève. Et je veux avoir ton possible à toi. Je veux avoir ton possible. Je prie ce matin pour que le possible de Jésus-Christ soit dans votre vie, par l'action du Saint-Esprit, par la dimension de foi, par l'amour de Dieu, par la puissance des Écritures, par notre engagement de cœur, au nom de Jésus. Seigneur, on aime vivre les miracles, on aime vivre les guérisons. On aime vivre les visitations. On aime ta parole. Seigneur, bénis cette église. Amen. Amen.